Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est samedi, mais un samedi un peu spécial. Donc, une émission Mediapolis spéciale, la France en éruption, avec trois regards, trois analyses, celle d'une journaliste, Françoise Fressos, éditorialiste au Monde, d'un sondeur, Édouard Le Cerf, directeur général de BVA, et d'un sociologue qui va nous rejoindre tout à l'heure, Jean Viard. Et pour commencer, pas de Canteloup. Car j'ai reçu un appel de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui m'a demandé de ne pas passer de Canteloup pour ne pas avoir encore une imitation de Macron qui mettrait de l'huile sur le feu. Non, c'est une fake news, c'est une blague. C'est une blague.
On commençait à s'interroger.
Oui, parce qu'après tout, par les temps qui courent, on se dit, mais si ça se trouve, même ça aurait été possible. Ce qui fait qu'on va aller d'emblée sur notre premier sujet, puisque je rappelle, Mediapolis n'est pas une émission de reportage, même si exceptionnellement, dans cette émission, nous aurons des éléments de reportage lorsqu'il y aura des événements qui le justifient. Nous sommes une émission d'analyse. Nous n'invitons pratiquement jamais d'hommes politiques. Je n'invite pas de gilets jaunes qui s'expriment tout à loisir sur radios et télévisions. Nous essayons de comprendre. Et du coup, la première chose sur laquelle j'aimerais interroger mes invités, c'est la haine dont Emmanuel Macron est l'objet. Autre chose que je dois vous dire sur cette émission spéciale également, nous ne passerons pas des sons de la semaine que vous avez entendus et réentendus pour donner plus de place à cette analyse. Mais imaginez juste, il y a moins d'un mois, le président de la République terminait une itinérance mémorielle dans laquelle il était allé à plusieurs reprises au contact avec les Français. Et il avait commenté en disant, je cite pas littéralement, mais l'esprit de ce qu'il disait, qu'il trouvait ça formidable et qu'il allait continuer et qu'il allait parcourir la France de région en région pour multiplier ses contacts. Et moins d'un mois après...
C'est la France qui est arrivée.
Il est enfermé à l'Élysée, Édouard Le Cerf. Il est enfermé à l'Élysée. Il est chahuté au Puy-en-Velay. Il décide de ne pas s'exprimer avec cette... phrase assez incroyable, ce communiqué assez incroyable du président de l'Assemblée nationale, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Qu'on en soit à ce que le président de la République, le président de tous les Français, dans une situation d'éruption, comme je l'ai dit, de crise, dise bah, pour ne pas l'aggraver, je me tais. Ça, en moins d'un mois, est-ce que ça n'est pas proprement stupéfiant? Est-ce que ça veut dire qu'il a pris conscience du rejet dont il est l'objet? Françoise Fressos.
Alors, il est devenu urticant, c'est-à-dire qu'effectivement, il vaut mieux pas dans la situation actuelle qu'il se monte parce que ça amplifie la colère contre lui. L'explication, je pense qu'il l'a saisie depuis assez longtemps, hein, puisqu'il a commencé, entrepris au début de la rentrée, toute une série de mea culpa en disant, il a d'ailleurs dit cette phrase incroyable, je n'ai pas réussi à souder cette rupture qui s'est produite entre les dirigeants et le peuple. Donc il a parfaitement conscience de la situation et en même temps il est devenu le symbole de la situation actuelle. C'est que je pense qu'il porte sur son visage tout ce qu'on reproche à la période, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi, qui est sûr de lui, qui tient un discours extrêmement intellectuel, qui d'une certaine façon symbolise cette France qui réussit, mais qui a laissé à l'écart toute une autre partie de la France qui a beaucoup plus de difficultés. Et si vous voulez, il porte aussi, je pense, quelque chose de très important qui est, au fond, ce paradoxe d'avoir voulu faire une fiscalité énergétique qui l'amenait vers être sur la scène mondiale comme le porte-drapeau de la lutte contre le réchauffement climatique au mépris de la souffrance populaire. Et donc, il y a, si vous voulez, ces contradictions qui apparaissent. D'une part, il incarne la mondialisation heureuse qui, dans les faits, n'existe pas. Et deuxièmement, il est au cœur de la contradiction entre comment essayer de prévenir le réchauffement climatique sans déstabiliser une grande partie de la classe moyenne populaire qui souffre et qui était la première visée par la hausse des taxes. Et donc, il porte tout ça. Et du coup, il est devenu urticant. Il ne peut plus sortir aujourd'hui.
Urticant, mais Édouard Le Cerf. Vous êtes, je vais dire, un des, pour ne pas me faire inutilement des ennemis, j'en ai assez comme ça. Vous êtes un des sondeurs les plus intelligents qui soient. Et donc, je pense que je ne vais pas vous choquer en vous disant que je pense que le sondage est un outil approximatif auquel on fait dire parfois beaucoup plus qu'il ne dit. Et par exemple, sur notre question là, est-ce que Emmanuel Macron est l'objet d'une haine et jusqu'à quel point ? Les sondages ne nous le disent pas, ça. Les sondages nous montrent une chute de popularité et de popularité et de popularité. D'accord. Mais entre être de plus en plus impopulaire et être détesté, c'est pas la même chose.
Avant que vous ne m'interpelliez, j'allais revenir sur le mot que vous avez choisi, parce que vous ne faites rien par hasard, Olivier. La haine de Macron, vous avez choisi un mot qui est purement dans l'émotionnel et pas dans quelque chose qui est rationnel. Si on parlait de rejet d'Emmanuel Macron, fut-il extrêmement important, mais vous avez parlé de haine. Et effectivement, vous avez sans doute raison. Certainement même, le chiffre du sondage et le chiffre en général est un des éléments qu'il faut prendre en compte dans ce qui se passe aujourd'hui. Le chiffre du sondage donne un niveau qui peut être très bas. Et lorsque mois après mois, ou même semaine après semaine, voire jour après jour, nous avons des sondages qui vous donnent un chiffre très bas, etc., ça donne quelque chose un peu comme la météorologie. Ça donne un niveau, et pour autant, ça ne reflète pas, ou pas suffisamment, ou on ne prend pas le temps de l'expliquer suffisamment, parce qu'on a d'autres éléments, on va nous aussi au contact des Français. Ça n'est pas pour justifier notre travail, oui, mais simplement pour dire on a ces éléments-là. Mais on peine, effectivement, à les restituer. Et au-delà du sondage, j'allais dire le chiffre en général, et lorsqu'on revient sur Emmanuel Macron, moi je crois que le chiffre en général, la statistique est un élément qui peine justement à dire la réalité. Elle dit une réalité, elle dit une moyenne, elle dit un niveau. Mmh. Mais lorsque vous avez, il y a quelques années déjà, les Français qui disaient, interrogés sur qu'est-ce que ça vous dit les statistiques nationales, ça leur disait deux choses. Ça leur disait, un, je ne suis pas sûr que c'est juste. Déjà, on ne parlait pas de fake news, mais c'était quelque chose. Je ne suis pas sûr que ça soit juste. Et d'autre part, si c'est juste, je n'ai pas le sentiment de m'y retrouver. C'est simplement parce que, je vais prendre un exemple. Vous suivez, par exemple, au cours des dernières années, la manière dont les Français, ou dans les Européens en général, perçoivent la situation économique. Vous regardez ça dans la durée. Vous regardez la moyenne. Vous dites, bah, ça ne va pas si mal, les choses ont tendance à s'améliorer depuis la crise des subprimes, etc. Vous regardez dans le détail. Et simplement en regardant dans le détail, entre les Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois et ceux qui n'ont pas de mal à boucler leur fin de mois. Pour une moyenne équivalente, on va dire 50%, on considère que ça va bien, eh bien, dans un premier temps, vous pouvez avoir ceux qui s'en sortent à 55%, oui, ça va bien, et ceux qui s'en sortent mal à 45%, oui, ça va bien, ça fait 50%. Et vous pouvez très bien avoir un 50% qui est reflété par quelque chose avec, d'un côté, 75%, de l'autre côté, 25%.
Et ce n'est pas du tout la même chose.
Ça n'est pas du tout la même chose. Et je ne parle pas d'émotionnel, je suis encore dans le chiffre. Mais je vous dis, là aussi, c'est un des éléments qui fait que, aujourd'hui, ceux que l'on voit aujourd'hui, peut-être un certain nombre d'entre eux manifestés, ont le sentiment qu'on leur présente des choses, la France, l'économie, ça va plutôt bien, et ne se retrouvent pas. Ils se disent, mon Dieu, mais si c'est la réalité, où suis-je, puisque je ne m'y retrouve pas? Donc là, il y a un travail à faire, vous avez raison d'insister là-dessus.
Alors si j'en reviens à Emmanuel Macron, je voudrais vous soumettre l'hypothèse suivante. Je pense que, et pour expliquer l'ampleur du rejet, et ce sont les conséquences des choses et des mots. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu les choses, c'est-à-dire les premiers actes du quinquennat, qui apparaissaient tous comme des actes pro-riches, pro-business, pro-entreprise, appelons ça comme on veut, mais pour le commun des mortels, pro-riches. Et puis, en même temps et après, il y a eu les mots. Les mots entre guillemets disruptifs, comme on dit, les mots les fainéants, les traverser la rue, les réfractaires à la réforme, les il nous coûte un pognon dingue, etc. etc. Et que les mots se sont greffés sur les choses pour fabriquer cette image vraiment du président, du roi des riches qui nous méprise. Votre avis dans un instant.
Retrouvez tout de suite une édition spéciale de Mediapolis avec Olivier Duhamel. Aujourd'hui, Olivier, vous recevez Françoise Fressos, éditorialiste au Monde, et Édouard Le Serre, directeur général de BVA, ainsi que le sociologue Jean Viard.
Oui, et à l'heure où je vous parle plus exactement, juste avant le début de Mediapolis, il y avait un premier bilan des interpellations s'élevant à 343, chiffre considérable sans rapport avec ce qui était le cas les semaines précédentes, signe d'un changement total de stratégie des forces de l'ordre. Et pour savoir où nous en sommes, nous avons Marguerite Lefebvre qui est sur le terrain près des grands magasins. Marguerite, c'est à vous.
Oui, eh bien, le dispositif de sécurité, vous le disiez, est assez exceptionnel ici. Hein. Je me trouve sur le parvis de la gare Saint-Lazare. Une dizaine de fourgons de CRS sont postés juste devant le parvis. Et puis d'autres sont en poste dans les rues alentours. Tous les gilets jaunes qui arrivent par ici, par cette gare, eh bien, ils ont droit au même rituel. Une première fouille à la sortie de la gare et puis des fouilles successives le long du boulevard qui les mène aux Champs-Élysées. Le tout, alors dans le calme pour l'instant. Écoutez, David, un habitant du 18e arrondissement de Paris.
On a croisé la police qui nous a enlevé nos masques de protection. Nous, on est venus pas pour casser, on est venus pour participer à l'événement. Ils font leur métier de maintien de l'ordre, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme ça. On voulait simplement se protéger parce que nécessairement, dans la masse, de toute façon, on va forcément se prendre quelque chose, hein, des lacrymos, etc. Donc, bon, voilà, ils vont pas faire des tirs chirurgicaux, clairement. Maintenant, ils nous ont pris nos masques. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça.
Mélanie, elle est venue de beaucoup plus loin, de la Vienne, et des contrôles, elle en a déjà subi bien avant Paris.
On a fait 5 heures de route. On est parti hier soir, on est arrivé ici ce matin, tôt. Bon, on nous a demandé au péage si on avait des boules de pétanque. Alors, on a dit non, ils nous ont fouillé la voiture, mais tout se passe bien, c'est normal.
Un dispositif de sécurité, donc vous le voyez, qui pour l'instant passe plutôt bien auprès des gilets jaunes qui se laissent fouiller dans le calme. Tous nous disent être venus manifester pacifiquement à Paris.
C'était Marguerite Lefebvre sur le terrain pour Europe 1. Nous disions juste avant, enfin il y a quelques minutes, avant votre arrivée, Jean Viard, on vous salue, qu'une des explications possibles de l'ampleur du rejet dont est l'objet d'Emmanuel Macron et parfois de la haine dont il est l'objet, et que se sont accumulées les choses et les mots, c'est-à-dire les choses qui étaient les premières décisions perçues comme pro-riche, pro-entreprise, mais pro-riche, flat tax, suppression, dit-on, de l'ISF, ils auraient mieux fait de garder le même nom, ça aurait été moins choquant. Et d'autre part, les mots entre guillemets disruptifs, les mots vous n'avez qu'à traverser la rue, réfractaire à la réforme, fainéant, gens de rien, etc., etc., qui était chez lui, dans le fond, dans la foulée de sa campagne électorale, où c'était très bien perçu dans la campagne, mais qui n'ont rien à voir quand on est président de la République, et que juste avant, on a pris ses mesures, et que donc il était devenu le roi des riches qui méprise les autres. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Mais je pense, si vous voulez, qu'il est arrivé au pouvoir en disant, au fond, il faut remettre la machine en marche. Et en se disant, pour ça, on va diminuer les dettes, et on va bousculer les mecs qui ont pris l'habitude du chômage. C'est vrai qu'on s'était habitué à avoir 3-4 millions de chômage, donc il y a un peu du bricolage. Donc on va les booster. Je crois que c'était ça, ces formules. Sauf qu'il n'avait pas vu qu'il travaillait que sur la moitié de la société. Au fond, le président Macron, j'allais dire, c'est l'homme qui est élu sur la toile, pour faire une image. Et en fond, c'est l'homme des métropoles, c'est l'homme de la révolution numérique, c'est l'homme des gens qui circulent en vélo, etc. Et c'est, dans toutes nos grandes démocraties, avec la révolution numérique qu'on est en train de connaître, au fond, c'est la moitié de la société à deux chouilles après. Sauf qu'à côté, il y a un autre peuple. Il y a le peuple des ouvriers, des boulangers, des petits chefs d'entreprise, c'est-à-dire tous les gens qui ont réussi leur vie dans la période précédente, dans les 40 glorieuses, qui sont allés s'acheter une maison, c'est souvent la première fois qu'ils sont propriétaires. Avant, ils étaient dans le logement social. Leurs femmes sont devenues salariées pour payer la maison. Et donc, ils ont deux diesels. Et c'est le peuple, c'est la moitié du peuple qui est dans le grand périurbain et dans les campagnes. Et au fond, ni ici, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Catalogne, on a fait un modèle de société numérique, écologique, non métropolitain.
Donc, Jean Viard nous explique, Édouard Le Cerf, que c'est un peuple, finalement, un peuple, une partie du peuple, évidemment. Ce n'est pas l'ensemble du peuple, c'est une partie du peuple. Ce que d'aucuns ont appelé le peuple central. Oui, allez-y, je vous poserai ma question après, parce que c'est vous qui dirigez l'émission. Allez-y.
Ce que dit Jean Viard, je crois qu'il y a aussi ce qui s'est passé, c'est aussi une difficulté avec le court terme et le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est servir le court terme ceux qui en avaient le moins besoin et penser que le long terme allait servir ceux qui en avaient le plus besoin, ceux pour lesquels il y avait le plus d'urgence.
Alors, mais moi, j'en viens à la question qui me turlupine depuis le début, du soutien. Cette affaire, si je la résumais, j'oserais dire qu'au départ, c'était une multiplication de micro-révoltes 2.0 qui sont devenues une macro-révolte médiatico-sondagière.
Absolument.
Et que ce qui a été un élément clé et reste un élément clé, c'est ce qu'on appelle le soutien. Mais le soutien, est-ce que ce n'est pas une notion un peu vague, un peu floue, un peu compliquée, un peu exagérée? D'abord, c'est très difficile de dire que le mouvement n'est pas justifié. C'est comme ce que vous voulez dire, que ce n'est pas justifié de se plaindre d'un faible pouvoir d'achat. Et quand un institut fait la différence entre soutien et sympathie, Ah bah tout d'un coup, le soutien, il n'est plus du tout à 80, il est à 40. Et donc, est-ce qu'on n'a pas surexagéré ce soutien? Question numéro un. Et deux, est-ce que, même si on l'a exagéré, il n'est pas étonnant qu'il persiste malgré les violences? Alors, me répondent France, dans l'ordre, Françoise Fressoz, Jean Viard et Édouard Le Cerf, brièvement chacun, pour que chacun puisse s'exprimer. Françoise Fressoz, du Monde, éditorialiste.
Le soutien est quand même important, même si on peut chicaner sur les mots.
Oh, chicaner,
quand même...
restez poli quand même, je n'ai pas chicané du tout. J'ai essayé de nuancer et tout de suite vous me balancez chicaner, je chicane de rien.
Il y a quand
rien.
Même une partie de l'opinion assez forte qui soutient les Gilets jaunes. Je pense que ce soutien, c'est une sorte de cri d'alarme de dire au fond, on ne peut pas trop continuer comme ça parce que ça ne marche pas. Et je pense que c'est quand même une crise de résultats que vit aujourd'hui Emmanuel Macron. Alors, il a toujours dit qu'il faut attendre 5 ans pour avoir les résultats. Sauf qu'on voit bien que tout le discours et toute la promesse de départ est fortement mise en cause parce que c'était une promesse à la fois nationale, européenne et mondiale. C'était « je fais les réformes, c'est un levier en Europe pour peser davantage et pour peser davantage dans le monde ». Il n'a pas le partenariat de Merkel, donc en Europe, il ne se passe rien. On a Trump qui élève la voix, qui dit « c'est moi d'abord ». Et donc Emmanuel Macron, tout le discours de dire « je suis maintenant en capacité d'agir et d'imposer, pas ma loi, mais mon modèle », ça ne marche pas. Et donc, on a une énorme souffrance et interrogation. Et il y a eu quand même des grosses maladresses, c'est-à-dire d'agréger aussi une partie des retraités par des mesures faites pour réduire leur pension ou en tout cas ne pas la faire évoluer, qui fait qu'on a toute une partie des classes moyennes aujourd'hui qui se disent « l'ascenseur social qu'on m'a promis, il n'est pas là et on en a marre de cette crise ».
Jean Viard.
Mais moi, je dirais que le diagnostic qu'avait fait le président Macron dans sa campagne et ce que disent les Gilets jaunes aujourd'hui, ce n'est pas très différent. Sauf que la façon dont il l'a géré, en gros le programme qu'on avait fait, bon, j'y ai participé, je l'ai dit tout le temps parce qu'après on me dit sur internet, t'as pas dit que t'avais participé au programme. Au fond, il a pris la filette des inspecteurs des finances qui ont fait des moyennes. Vous prenez un chiffre, le SMIC a augmenté de 16% en 10 ans, très bien. Les prix de 12%, parfait, sauf qu'on vit plus pareil. Il y a 25% des femmes qui sont seules avec des enfants, on s'est tous des abonnements à nos téléphones, etc. Donc ce qu'on pouvait, le pouvoir d'achat réel qu'on avait, il a aujourd'hui, il n'est plus du tout le même.
Oui, parce qu'il y a le chiffre global et voilà. Puis il y a l'argent qu'on peut utiliser librement.
Et puis on donne
et donc l'explosion des dépenses obligées fait que l'argent qu'on peut utiliser librement, c'est restreint.
L'explosion des dépenses
et donc on
n'a
pas l'impression de s'être enrichi.
Tout à fait, mais surtout le fait que ce qu'on produit près de chez nous a augmenté et ce qui vient de loin a diminué. Donc un ordinateur, le prix a divisé par deux, mais la pomme de terre, ça a augmenté de 25%.
L'ordinateur et la pomme de terre, je coupe, j'en viens sur cette lumineuse comparaison et on se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, Mediapolis avec Olivier Duhamel sur Europe 1.
L'édition spéciale de Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi le directeur général de BVA, Édouard Le Cerf, Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, et Jean Viard, sociologue.
Alors avant d'en venir au contenu politique de ce mouvement, Édouard Le Cerf, quand même, on ne va pas terminer sur la notion de soutien de l'opinion, jusqu'à quel point, comment, pourquoi est-ce qu'il perdure et est-ce qu'il est aussi dense qu'on le croit parfois, sans s'adresser aux spécialistes de l'opinion que vous êtes.
Je pense qu'aujourd'hui, le soutien de l'opinion à l'égard des Gilets jaunes n'est plus que le soutien de l'opinion à l'égard des Gilets jaunes. C'est un peu facile de dire ça, mais il suffit de regarder un tout petit peu la sociologie de ceux qui disent soutenir. Alors je prends le champ large, hein, celui dont vous parliez autour de 70%, et vous prenez...
C'est-à-dire celui qui mélange
celui qui
soutien
mélange...
et sympathie.
Voilà, celui qui mélange soutien et sympathie. Et vous avez là une forme de reproduction quasi à l'identique de ce qu'est aujourd'hui la part de mauvaise opinion à l'égard d'Emmanuel Macron. Il y a eu un transfert évident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une question de sondage, lorsque vous êtes interrogé et on vous demande si vous soutenez les Gilets jaunes, en gros, que vous soyez favorable ou opposé à la politique d'Emmanuel Macron, vous placez d'un côté ou de l'autre. Donc il faut faire attention. Donc c'est notre question va un peu attraper plein de choses. Mais c'est aussi à cause ou parce que le mouvement des Gilets jaunes est très particulier. J'ai lu quelque part, je pense que c'était très juste, les Gilets jaunes, c'est un peu comme un test de Rorschach, c'est-à-dire que vous avez une forme qui est dans laquelle chacun se retrouve. Vous savez, ce test de psychologie dans lequel on vous montre une tâche et vous devez expliquer ce que vous y voyez. Mmh. Aujourd'hui, la diversité de ce qu'il y a en ce mouvement des Gilets jaunes fait que, oui, comme vous le disiez, les Français sont plutôt favorables au fait de dire il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays et donc je suis prêt à soutenir des gens qui sont là pour le défendre. Et puis, vous avez une partie de la population qui va trouver, bah tiens, telle mesure, ça me correspond, telle autre, ça me correspond. Pour autant, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait corps? Et est-ce que ça fait agrégation? Non, c'est là aussi tout le problème d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire le fait que ce soit diffus,
c'est
gazeux,
ça qui est stupéfiant. C'est qu'en fait, ça ne fait pas tant de sens que ça. Et pourtant, ça fait un sens considérable puisque c'est un des ressorts de cette révolte. Didier François, envoyé spécial pour Europe 1 en haut des Champs-Élysées.
Oui, alors voilà, on vient d'avoir les premières grenades lacrymogènes, il y en a 6 qui ont été tirées. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les manifestants qui, ce matin, vers 9h15, essayaient de passer sur l'arc de triomphe, n'y parvenaient pas, donc ils sont partis vers le sud, vers la Concorde. Concorde, ils ont été bloqués, là, ils sont remontés. Le dispositif policier reste très, très ferme sur l'accès à la place de l'arc de triomphe. Et donc, il y a quoi, 500, moins de 1000 en tout cas, moins de 1000 gilets jaunes ont essayé de partir par la rue Housset pour rejoindre la rue Trianland et redescendre par derrière sur l'Elysée, bah évidemment ils ont été bloqués, donc ils ont crié leur slogan habituel Macron démission, et puis voilà, BFM enculé, etc. Et là, comme les policiers leur ont dit de ne pas passer et qu'ils ont voulu pousser, il y a eu trois grenades de tirer, mais très très légèrement, pas d'affrontement, tout le monde a reculé, et là maintenant tout le monde est les 500 personnes sont, les 500 gilets jaunes sont à côté de Cartier et de l'ambassade du Qatar, juste à la hauteur, en haut des Champs-Elysées, juste avant la place de l'Étoile.
Ça veut dire qu'ils essayent à la fois d'un côté de rejoindre la place Charles de Gaulle et de l'autre côté place de l'Étoile, Arc de Triomphe, et de l'autre côté d'aller vers l'Élysée, c'est ça ?
En fait, je pense qu'ils veulent aller vers l'Elysée, donc ils ont essayé de passer. Alors, ils ont essayé de passer d'abord sur l'Arc de Triomphe. Là, on leur a dit qu'on n'est pas question, et puis ça a été bloqué. Il y a un escadron de gendarmerie mobile qui est bien dessus, et là, personne ne passe. Alors, ils ont essayé de descendre pour aller à l'Elysée, donc ils sont redescendus les Champs-Elysées, ils ont été bloqués au niveau du rond-point. Donc maintenant, je pense qu'ils ont essayé de remonter, puis quand ils ont vu que le dispositif bloquait complètement l'accès à la place de l'Elysée, ils ont essayé de repartir sur l'Elysée par l'avenue de Friedland. Mais l'avenue de Friedland, il y a aussi un autre escadron de gendarmerie mobile qui est l'escadron en renfort qui est installé là-bas avec des blindés, donc là il n'y avait strictement aucune chance qu'ils ne passent, surtout que franchement ils ne sont pas extrêmement nombreux, il y a 500 personnes.
Merci beaucoup Didier François. Donc,
je vous en prie.
À l'heure actuelle on en est à 354 interpellations et 127 gardes à vue. On reprend notre débat dans quelques instants, nos analyses dans quelques instants.
Le sociologue Jean Viard, l'éditorialiste au Monde Françoise Fressos et le directeur général de BVA Édouard Le Serre sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans cette édition spéciale de Mediapolis.
Et je vais faire une tentative, mais je sais qu'elle va échouer. C'est sur le contenu du mouvement. Il y en a qui me disent le mouvement c'est un mouvement facho. D'autres qui disent le mouvement c'est un mouvement gaucho. Et d'autres qui disent le mouvement c'est un gaucho facho. Alors je voudrais que Françoise Fressos me dise mais c'est facho. Jean Viard, mais non, c'est gaucho. Et le CERF, c'est les deux. Mais ça va rater. Mais j'essaye quand même. Françoise Fressos, éditorialiste au Monde.
Non, je pense que la source de ce mouvement, c'est un mouvement spontané né sur les réseaux sociaux. Donc on va avoir
d'accord,
du mal. Il faut du temps pour l'analyser parce que je pense que c'est quelque chose de tout à fait nouveau.
Oui.
Après, qu'il y ait de la récupération, gaucho-facho, entre guillemets, comme vous dites, c'est évident.
Non, mais parce que indépendamment même de la récupération, est-ce que dans le mouvement lui-même...
Non, mais ça dépend des lieux. Tu vois, je vais te dire, moi, j'habite à côté de Pertuis, par exemple. Là, on filtre, gentiment, ouais, en rigolant. Tu montes à Bolène, là, il bloque. Ouais. C'est la zone, j'allais dire, la plus facho du Vaucluse, si on peut dire.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y avait déjà une structure politique du territoire.
Moi, je suis un peu plus bas, hein. C'est très Front National aussi, Bandol
si
National.
Les pratiques sont plus ou moins dures, suivant les endroits. Mais ce que moi, je dirais dans l'autre sens, je dirais qui est dedans, des fachos, tout ça. Il y a deux choses, d'abord. D'abord, les valeurs démocratiques sont quand même atteintes depuis la présidentielle, parce qu'on ne reconnaît pas celui qui a gagné d'être légitime. Et ceux qui ont fait ça d'abord, c'est des insoumis, en disant on a failli gagner, au fond on est presque légitime à avoir gagné. C'est une remise en cause du principe même de la démocratie représentative, et qui est en train de se développer.
Et d'ailleurs, ils le font d'une manière absolument habile, mais quand même, je crois, franchement, qui n'est pas de bonne foi. Ils comparent le chiffre qu'ils ont obtenu au premier tour de la présidentielle avec les députés qu'ils ont obtenus après le second tour. Or, au second tour, ils ont fait, je ne sais plus, 4%. Et même, ils ont obtenu, malgré ça, ils ont quand même obtenu 17 députés.
Mais c'est le même problème.
Et c'est quand même de leur faute si, au second tour de la législative, ils n'arrivent pas à convaincre les gens de venir voter quand même et de voter pour eux.
Oui, Alain, mais ce n'est pas que chez nous. Regarde ce qui se passe aux États-Unis, tout ça. La démocratie représentative, ils ont de plus en plus discuté par ceux qui ne gagnent pas. Il y a un mouvement de fond qu'il faut bien voir, parce qu'il est extrêmement dangereux, si tu veux. Et la deuxième chose, je dirais, moi, je pense qu'il y avait dans les mouvements, là, il y a des gens qui viennent de tout. Il y a des fachos, il y a des gauchos, il y a des braves gens, il y a mes voisins.
Il y a des gens qui en ont ras-le-bol et qui disent on ne peut pas continuer comme ça.
Il y a aussi le fait, si tu veux, que le gouvernement n'a pas arrêté de dire on va relancer vos revenus. Mais quand on sort de 10 ans de crise, les gens, ils ont envie de le voir. On ne peut pas vivre 10 ans de crise. Les gens, ils ont été sages. Excuse-moi, les enseignants, on ne les a pas augmentés. Ils n'ont pas fait grève. Les smicards, on ne leur a rien donné. Mais ils ont dit il y a la crise. Donc les gens disent on attend. Et puis d'un coup, on leur dit la crise est finie. Ben, le mec, il dit si la crise est finie, et moi ? Et on a oublié, moi, parce qu'on leur a dit on va relancer du capital dans les entreprises, ça va créer de l'emploi. Donc dans 5 ans, vous aurez du travail. C'est même pas vous aurez du travail. Ceux-là, ils ont du travail. Ce sont des gens qui bossent. Donc c'est pas des chômeurs. Il y en a un peu. Donc c'est des gens qui ont du travail. Je sais pas où j'ai
ou
lu. En gros, c'est des ménages à 3000 euros par mois.
Ou des retraités.
Mais oui, mais les retraités, on n'avait jamais dit qu'on baisserait leur retraite. On avait parlé absolument. De la CSG. Qu'est-ce qui leur a pris de baisser les APL, de baisser les retraites et de refuser d'augmenter le SMIC. Je dis, à un moment, il faut regarder comment les gens vivent. Quand tu as 25% des femmes qui naissent avec des enfants, tu peux pas avec le SMIC si tu es tout seul. Le SMIC, c'est fait pour si on est deux. En gros, je m'excuse, la voiture, c'est pour deux, le lit, c'est pour deux, le frigo aussi. Si tu es tout seul, tu t'en sors pas. On peut pas regarder la société parce que c'est des petites sommes dont on parle. Ces petites sommes. On est en train de supprimer le CICE pour le remplacer pour changement de charge. On dépense 25 milliards. Donc je veux dire, bon, là d'un coup, c'est urgent. Et pourquoi c'est urgent? On n'en a rien à foutre. Le CICE, c'était très bien. Et de l'autre côté, on est incapable d'augmenter le SMIC de 200 euros.
C'était le gilet jaune Jean Viard. Finalement, on a reçu un gilet jaune. Édouard Le Serre.
Est-ce que c'est gaucho ou est-ce que c'est facho? Je pense, comme disait François Fassos, qu'à l'origine, ça n'est ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, on a besoin d'une grille d'analyse pour se rassurer en quelque sorte, pour comprendre.
Raté. C'est pas seulement que chacun récuse, mais quand je pensais que vous puissiez dire les deux, non, vous vous dites ni l'un ni l'autre.
Non, c'est la grille d'analyse qu'on peut utiliser. C'est une des grilles d'analyse qu'on a envie d'utiliser pour essayer de comprendre et pour essayer, encore une fois, intellectuellement, de s'y retrouver dans quelque chose qui est un peu gazeux. Alors maintenant, si vous regardez la sociologie de ce qu'il y a, et dans la mesure où on dispose des instruments pour le faire, si on reparle des éléments de soutien très larges sur l'ensemble de la population, puis vous allez sur les cercles plus concentriques de ceux que l'on retrouve dans les manifestations, sans doute que la concentration dans quelque chose qui est un tout petit peu... la concentration de gauchos et de fachos dans ces petits cercles-là qui sont présents, qui sont actifs, qui sont très mobilisés, elle est sans doute plus forte que dans l'ensemble de la population où c'est un peu plus dilué et où même l'intention même de se reconnaître en gaucho-facho est très largement diluée. Et on voit bien l'échec de gaucho-facho à pouvoir récupérer aujourd'hui est aussi une des clés d'analyse.
Alors là, on va y venir. Le comportement des partis politiques face à ce mouvement, on va y venir. Tout le monde veut parler. On va y venir dans quelques instants. Dans quelques instants.
11h, Mediapolis avec Olivier Duhamel sur Europe 1.
Édition spéciale de Mediapolis ce samedi jusqu'à 11h. On vous retrouve, Olivier Duhamel, avec vos trois invités, le sociologue Jean Viard, le directeur général de BVA Édouard Le Serre et l'éditorialiste au Monde Françoise Fressos.
Et donc, on passe maintenant à l'attitude des partis politiques. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça? Enfin, en tout cas, des partis autres que La République En Marche et Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'on peut considérer que jusqu'à la fin de la semaine dernière, jusqu'aux violences du 1er décembre, il y avait ce que moi j'appellerais une vraie démagogie de tous les partis politiques d'opposition, courant les uns et les autres derrière le mouvement, sans vergogne et sans limite, et espérant, quel que soit le coup pour la France, que ça affaiblisse et que ça tue le pouvoir politique en place. Et puis qu'après, il y a eu réaction quand même, notamment d'éditorialistes, de commentateurs qui sont devenus plus critiques, plus nuancés. L'éditorialiste du Figaro qui critiquait même les partis, les Républicains, en disant qu'ils étaient des démagogues, que ce n'était pas possible. Et que du coup, ça, plus leurs électeurs qui se sont partagés, ils se sont mis, les ex-partis de gouvernement républicains PS, à être nettement plus modérés et très ouvertement appelés contre la violence, la manif aux Champs-Élysées et tout ça, tandis que la France insoumise et le Rassemblement national continuaient. Est-ce que cette partition est juste, Françoise Fressos?
Tout à fait juste. Avant les violences, beaucoup de partis ont essayé de récupérer le mouvement, et notamment le parti Les Républicains, parce que Laurent Wauquiez, depuis qu'il est élu patron de ce parti, et précisément sur cet électorat-là, c'est-à-dire le malaise des classes moyennes et surtout du bas des classes moyennes qui ont peur, qui vivent vraiment dans la hantise du déclassement social. Et il dispute cet électorat à Marine Le Pen. Donc il a été en phase au point de mettre son gilet jaune. Et puis soudain, il y a eu les violences de samedi et là, il y a eu une sorte de sidération où les partis dits républicains se sont dit on ne peut pas continuer comme ça. Donc Laurent Wauquiez a oublié qu'il avait porté son gilet jaune.
Il a même dit qu'il n'en avait pas porté.
Il a même dit qu'il n'en avait pas porté. Et on a vu effectivement ces partis-là se dire on ne peut pas jouer avec le feu, c'est-à-dire on ne peut pas apparaître comme attisant la violence. Et puis vous avez au contraire le Front National et peut-être plus encore la France Insoumise qui, eux, sont pleinement dans le mouvement parce qu'au fond, ils veulent transformer ce mouvement en une révolution. Ça, c'est très clair. Alors, avec quand même une distinction très importante parce que hier, Marine Le Pen a dit « Mais moi, je ne suis pas du tout pour la suppression de la Ve République » alors que certains manifestants disent « Sixième République ».
Avant de savoir si ça a de l'importance ou pas, et on va demander ça à le Cerfé Aviar, nous avons en direct, et donc c'est quand même la priorité ce matin, Pauline Jacquot qui est porte-maillot.
Oui, exactement. Quelques dizaines de gilets jaunes à la porte-maillot étaient en train de bloquer le périphérique parisien. Tentative de courte durée puisqu'une quinzaine de fourgons de CRS sont arrivés pour intervenir. Ils ont délogé en quelques minutes ces gilets jaunes, des forces de l'ordre beaucoup plus nombreuses ici que les manifestants. Et la circulation vient de reprendre ici à l'instant devant mes yeux. Les derniers gilets jaunes sont en train d'être évacués par les CRS et remontent vers la porte-maillot par la bretelle du périphérique. Ces gilets jaunes qui restent maintenant groupés en ce moment sur la place de la porte-maillot.
Merci beaucoup parce que c'est une information dans le fond très importante parce que on annonçait que la fraction entre guillemets dure des gilets jaunes avait donné rendez-vous porte-maillot pour défiler sur et bloquer le périphérique. Donc on voit avec on vient d'entendre à l'instant avec Pauline Jacquot sur place qu'en vérité il n'était que quelques dizaines et pas les milliers que ça aurait pu être compte tenu du fait que c'était des inspirateurs du mouvement qui appelaient à aller là. J'en viens les évolutions, le rôle, le discours des partis politiques.
Moi, je ferai deux remarques.
Ça a de l'importance ou pas ?
On a eu un sondage il y a un mois.
Mais
ou deux.
Vous allez répondre à ma question quand même.
Absolument. Ah, vous disiez 42% d'accord. des gens voulaient un régime autoritaire.
Oui.
Et en gros, ce que les autres partis ont vu, c'est qu'on était partis pour
passer. Vous forcez un peu le truc.
Je
le
force
truc.
Un peu, mais c'était quand même la tendance.
Ouais.
Et à un moment, la question qui s'est posée, c'est est-ce que ce moment va être contrôlable ou est-ce qu'à un moment, il y a encore plus de gens qui vont vouloir un parti autoritaire, y compris les PR, tout ça, personne ne s'y intéressait plus. Il y a eu la trouille, quoi, parce qu'après samedi dernier, je crois qu'il faut, se dire ça. Et en plus, il faut se dire, si on s'est dit, si aujourd'hui il y a des morts, tous les partis qui n'auront pas clairement dit qu'ils ne veulent pas y aller, on va leur dire qu'ils sont responsables. Mais la deuxième chose que je veux dire, ce mouvement, moi, je le pense comme des ZAD de rond-point. Ce sont des ZAD, des multiples petites ZAD, où les gens se font griller des saucisses, se sont tirés des petites bâches pour danser le soir. Il faut le regarder sur le terrain.
Ça picole aussi, d'ailleurs, souvent.
Ça picole, ça vit, ça fait l'amour. Ouais. Enfin, c'est la vie normale. Ouais, ce qu'on monte à Paris, c'est
des
une petite partie.
Des mini-mai 68, des petites fêtes.
Mais c'est un peu, non, mais il y a un peu ça, parce que c'est une fête des voisins. Ouais, quelque part, le propre d'un rond-point, c'est qu'on habite à 1 ou 2 kilomètres et qu'on se connaît par l'école et tout.
Mais c'est pour ça que le mouvement marche est génial aussi, parce que, écoutez, un truc dans lequel, vous pouvez aller picoler, rigoler, danser, parler avec des potes et parler d'autres choses que seulement de la météo. Et d'autre part, passer à la télé, c'est génial. Et
absolument. En plus, les retraités font la garde pendant la journée. C'est pour ça que l'alliance des deux est catastrophique et les salariés arrivent à 18h ou le samedi. Donc, en gros, on voit un modèle de lutte sociale qu'on n'avait jamais connu. Et la seule façon de le calmer, d'ailleurs, c'est de séparer les groupes. Pour ça qu'il faut abandonner les trucs sur les retraites, déjà que les retraités rentrent chez eux, etc. Si on ne divise pas en leur donnant ce qu'ils demandent, on n'y arrivera pas. Non, mais c'est important parce que ce n'est pas une lutte. Il y a eu la grève des mineurs, il y a eu la grève de Renault, il y a eu la grève des fonctionaires. Non, là, c'est des gens qui habitent à côté
là.
Du même territoire.
Vous avez dit tout à l'heure que vous avez participé à la création à la fabrication du programme. On dit là que depuis quelques jours, Emmanuel Macron, très isolé, consulte énormément. Est-ce qu'il vous consulte en ce moment ?
Des échanges.
Ah,
mais
oui, quand même.
Comme a dit d'ailleurs Gérard Collomb dans Le Monde, cette semaine, il est quand même dommage que les intellos et les économistes qui ont participé au programme aient été mis à l'écart depuis 18 mois.
Oui.
C'est aussi mon sentiment.
Mais lui, il vous consulte un peu, donc j'espère qu'il vous écoute. Théo Malval, qui n'est pas du tout consulté par Macron, mais reporter en direct sur les Champs-Élysées.
Oui, les Champs-Élysées où on commence depuis quelques minutes à avoir quand même les premiers échauffements, les premiers échanges de gaz lacrymogène entre les policiers et les manifestants, tout simplement parce que les gilets jaunes sont, Didier et François l'expliquaient tout à l'heure, bloqués entre guillemets entre deux cordons de gendarmes, un côté Arc de Triomphe et un autre en bas des Champs-Élysées côté Concorde. Il y a certains des gilets jaunes qui aimeraient bien sortir un petit peu de cette nasse, comme ils disent, et du coup qui vont au contact. Les policiers ont répliqué par des gaz lacrymogènes. J'étais avec Jérôme, venu de l'Ain, de Bourg-en-Bresse tout à l'heure, quand les premiers tirs ont éclaté.
Tout est parqué. Là, on est nassé, on est dedans. Là, ils sont là pour qu'on perde pédale. Ils vont y arriver parce que des gens pacifiques, il y en a, mais il y en a beaucoup qui s'énervent très, très vite et qui n'attendent que ça. Hélas, je suis pas là pour les représenter, ceux-là. Je suis pas là pour casser les vitrines, au contraire. Hein. Je suis là pour moi, ma fille, et puis pour les enfants des autres aussi. Hein.
Voilà, alors pourtant la manifestation a quand même été bon enfant assez longtemps. On a même entendu des chants, certains chantaient Joe Dassin aux Champs-Élysées avec leurs enceintes portables. C'était resté plutôt bon enfant jusqu'à voilà, ces dernières minutes. La pluie commence à tomber et les esprits commencent un petit peu à s'échauffer, même s'il n'y a pas vraiment de violence, il n'y a pas de casse alors qu'il est. Simplement voilà, quelques échanges de colibets et de tirs de gaz lacrymogène.
Théo Manval aux Champs-Élysées où ça s'échauffe un peu sans que ça casse vraiment. Et nos invités ici, Jean Viard, Édouard Le Cerf, Françoise Fressos, veulent tous intervenir. Et bien, ce sera dans quelques instants.
Médiapolis est en édition spéciale ce matin et pour l'occasion vous recevez Olivier Duhamel, Françoise Fressos, éditorialiste au Monde, Édouard Le Cerf, directeur général de BVA et le sociologue Jean Viard.
Et Pauline Jacquot d'Europe 1 qui est donc sur la porte-maillot nous signale qu'ils sont remontés sur le périphérique et du coup les forces de l'ordre essayent de les faire redescendre, peut-être un petit peu de lacrymo et tout, mais rien de bien méchant, plutôt un jeu dans lequel on monte, on descend, sans plus de violence, pour l'instant en tout cas. Françoise Fressos, vous vouliez intervenir vous aussi sur ce que Jean Viard nous a dit des fêtes des voisins sur les ronds-points.
Oui, ce mouvement des ronds-points, je trouve ça intéressant parce que vous disiez tout à l'heure mouvement gaucho-facho, oui, mais c'est aussi un mouvement pour se montrer et pour, au fond, transformer une partie de ce qu'on appelait la France des invisibles en une France visible. Et en ce sens, je trouve que le mouvement est très intéressant parce que si le pouvoir arrive à se saisir de cette occasion de nouer un dialogue démocratique après ce mouvement-là, ça peut être extrêmement positif.
Mais alors du coup, c'est surprenant, Édouard Le Cerf, qui disent BFM enculé alors qu'ils ont accès tous les jours, matin, midi et soir, aux chaînes d'info.
Certains disent.
Je sais que ce n'est pas ce dont vous vouliez parler, mais je veux quand même vous poser la question.
Tout à fait. Ils disent. Certains disent, oui. Effectivement. Il y a...
Oui, vous avez raison. Ça me rend fou quand on dit les étudiants rejoignent le mouvement, les lycéens, alors que c'est 5% d'entre eux.
Voilà, certains
disent. Merci de m'avoir repris à juste titre, Édouard.
Certains le disent et sont visibles et on l'entend. Et bien sûr, il y a un vieux fond. De colère contre la presse comme il y en a à l'égard des politiques, comme il peut y en avoir d'ailleurs à l'égard des sondeurs. Je voulais revenir, donc je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, mais sur les partis politiques. Les partis politiques, facho, gaucho, où en sont les partis politiques? Ça ne s'est pas fait par eux, ça ne se passe pas avec eux, et pour l'instant, ça n'en est absolument pas profitable. La question qu'on aurait pu poser, Olivier Duhamel, c'est de la même manière, est-ce que Facebook a provoqué? Est-ce que Twitter a relayé? Et est-ce que la suite va aussi se passer de cette manière-là? En gros, aujourd'hui, c'est vraiment un décalage par rapport à nos grilles d'analyse habituelles, à la manière dont ça s'est constitué, dans la manière dont ça va continuer ou pas, et dans la manière dont ça va progresser. Un tout petit point. Vous avez vu Facebook, il y a, non pas une responsabilité, le changement de l'algorithme de Facebook récent qui consiste à amener les gens à avoir plus de relations avec les cercles les plus proches, la presse régionale, etc., est un des éléments, sans doute, qui a aidé, je ne dis pas c'est ce qui a fabriqué le mouvement, mais qui a aidé à une forme de coagulation, une forme, on se retrouve entre nous, on est visible, on voit qu'on a un proche.
C'est clair, on a un outil nouveau pour mobiliser autour de soi et on n'a pas besoin des canaux d'autrefois, ça c'est clair.
Voilà, moi je dirais, il se crée du politique là. Il y a des centaines de milliers de gens, puis ceux qui sont autour, pas autant qu'on le dit, mais quand même, il se recrée du politique. Après, comment ce politique à naître, on pourrait dire, va devenir un autre champ de politique. Ça peut aller vers Trump. À la limite, le Front National, enfin, ils ont changé de nom, mais peut se faire doubler par une grosse bête à poil qui va effectivement le jouer mâle blanc dominant. Et là, ils sont un peu faibles, hein, en gros, mâle blanc dominant. Bon, c'est possible. Ça peut aussi être à l'inverse, au fond que le président de la République va arriver à dire comment je vais devenir le président des pauvres et comment il va renverser, en faisant la même politique. Mais en partant de la hausse du SMIG, en partant de l'abandon de quelques mesures absurdes comme la baisse des retraites qui n'avait pas été prévenue aux personnes âgées, il pourrait très bien jouer le jeu et tenter de récupérer le mouvement en se posant en pose président des pauvres. Donc il y a deux solutions. Mais disons, connaissons que du politique se crée, des liens existent, ces gens se parlent, on va les retrouver derrière. Mais ils sont pas nés, on ne naît pas fasciste, on le devient. Ils ne le sont pas, simplement là, ils manifestent. Mais si à un moment, ils n'écoutent pas, c'est celui qui va leur sembler le bon leader derrière lequel ils vont aller. Il ne faut pas enfermer les gens.
Il y a quand même un moment où tout ça, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais il y a un moment où tout ça va revenir dans un jeu politique entre guillemets normal. Il va y avoir quand même les élections européennes ne vont pas être annulées, les élections municipales ne vont pas être annulées,
mais d'ici là, y a
la prochaine présidentielle ne va pas être annulée. Et à ce moment-là, il y aura, On ne peut pas dire que tout ça n'aura eu aucun effet politique. Et alors, est-ce que moi, je vous... Attendez, je mets les pieds dans le plat. Je mets les pieds dans le plat, il nous reste moins de 2 minutes. Est-ce que tout ça ne va pas servir à Marine Le Pen? Point.
C'est possible.
C'est probable.
Oui, mais je pourrais aussi qu'il y ait un leader des Gilets jaunes qui fasse une liste, par exemple.
Et l'autre chose, c'est
Elle serait désavouée par un autre.
Les élections européennes sont en mai prochain. Donc tout va dépendre aussi de la réponse politique d'Emmanuel Macron. Oui. C'est vrai qu'il a quand même fait une partie de sa campagne sur cette France qui travaille, qui a des faibles revenus. Il avait toujours dit « je vais essayer d'augmenter leur salaire ». Ça n'a pas été perçu parce qu'il s'est planté dans sa politique fiscale. Il s'est planté dans sa politique écologique. Mais... il y a peut-être une possibilité d'entendre, et ça dépend de la réponse la semaine prochaine.
Olivier, vous dites tout ça va revenir dans le champ politique. Non. Le champ politique va revenir sur tout ça. Est-ce qu'il va réussir à reprendre la main sur tout ça? C'est la question. Mais c'est pas tout ça va se réintégrer dans le champ politique. Non. Le champ politique va tenter de revenir. Il est à la traîne.
Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'il soit possible, souhaitable ou non, je ne crois pas qu'il soit possible de transformer notre démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, avec toutes ses insuffisances et ses faiblesses, de la transformer radicalement en une nouvelle forme de démocratie citoyenne inédite qui fait que tout ce qu'on a connu avant va être intégralement balayé. Je n'y crois pas.
Là, on a quand même tiré. Je vous rappelle que le président Macron a fait campagne sur une France girondine. Et que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a gouverné sur une France verticale. Peut-être qu'entre ces deux discours, il y a moyen d'avoir un espace politique plus ouvert.
Ça dit comme ça, on peut s'accorder sur cette proposition finale de Jean Viard, qui reste relativement raisonnable, qu'entre la verticalité totale et l'horizontalité absolue, il y a peut-être une voie intermédiaire. Merci beaucoup Jean Viard, Édouard Le Cerf, Françoise Fressos, d'avoir animé avec moi cette spéciale Médiapolis. Vous pouvez la faire réécouter sur europe1.fr. Nous restons en émission spéciale avec un flash et juste derrière Patrick Cohen qui reprend, et d'ailleurs je reste en studio avec vous.
Exactement, merci Olivier Duhamel. Vous restez avec nous pour la suite. Europe 1 bouleverse ses programmes. Vous retrouverez bien sûr Laurent Mariotte la semaine prochaine, parce que pour le moment on suit l'actualité sur les gilets jaunes, sur l'évolution de la situation, avec notamment Patrick Cohen jusqu'à midi, puis avec Fabienne Lemoyle jusqu'à 14h.